18h sur Radio G.
De l'opposition.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Orange Monnaie à partir de 8h10 TU.
RFI.
À l'écoute de Radio France Internationale, il est 6h en temps universel, 8h dans nos studios à Paris.
Raphaël Delvolvé.
La stratégie de la confrontation, le département d'État américain a décidé d'empêcher l'ambassadeur auprès de l'Union européenne de témoigner dans l'enquête sur l'affaire ukrainienne. Une tactique visant à gagner du temps dans les rangs du président Trump menacé de destitution. Une tactique qui éveille également plusieurs soupçons chez les démocrates. Rarissime aux États-Unis, cette grève des employés de General Motors qui se durcit, elle entre dans sa quatrième semaine. Aucun accord ne semble se dégager dans les négociations entre syndicats et direction. Les pertes financières sont, elles, extrêmement lourdes. Dimanche, normalement, c'est le second tour de la présidentielle en Tunisie. Reportage dans cette édition dans la région de Sidi Bouzid, zone défavorisée où l'on a voté pour les deux finalistes, le conservateur Kaïs Sayed et l'homme d'affaires Nabil Karoui. Et puis à suivre, la fin des auditions des commissaires européens et l'église orthodoxe russe qui sort de sa réserve et prend fait et cause pour les manifestants arrêtés cet été dans les rues de Moscou. 200 prêtres orthodoxes ont signé une lettre ouverte direction la Russie en fin d'édition. C'est donc dans un bras de fer que Donald Trump et son administration ont décidé de se lancer avec le Congrès pour tenter de court-circuiter la procédure de destitution engagée après la révélation de l'affaire ukrainienne. Le département d'État a interdit à Gordon Sondland, l'ambassadeur américain auprès de l'Union européenne, de témoigner comme cela lui est demandé. Une lettre de 8 pages a été adressée à Nancy Pelosi, la chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants. Washington, Anne Corpé.
Pour faire simple, vous tentez d'annuler les résultats de l'élection de 2016 et de priver les Américains du président qu'ils ont librement choisi, écrit l'avocat de la Maison-Blanche. Il n'évoque pas sur le fond les faits reprochés au président, mais dénonce un vice de forme. L'avocat estime que sans vote préalable, la Chambre n'avait pas le droit de lancer une enquête, ce que contestent les démocrates. Le courrier a été envoyé quelques heures seulement après que l'exécutif a interdit à un diplomate de témoigner devant le Congrès. Une décision vivement dénoncée par Adam Schiff, le chef de la commission de renseignement à la Chambre.
Nous considérons cette action comme une entrave au fonctionnement du Congrès, qui est un organe égal au gouvernement.
À l'instar de l'hôte de la Maison-Blanche, les élus républicains dénoncent une procédure fantoche. Liz Eldin, représentant de New York.
C'est un tribunal bidon. Toute la procédure est une mascarade politique, un spectacle de clowns.
Le président considère qu'il est au-dessus des lois, mais ce n'est pas ce que dit la Constitution, a réagi Adam Schiff après la parution de la lettre de l'avocat de la Maison-Blanche. Ce courrier pourrait bien constituer un nouveau motif de destitution, mais la procédure risque d'être ralentie. À défaut de se défendre sur le fond, Donald Trump gagne du temps. Anne Corpé, Washington. RFI.
Et nouvelle réaction de Nancy Pelosi ces dernières heures. Elle dénonce, je cite, une tentative illégale de dissimuler les faits. C'est l'autre dossier qui agite la scène politique américaine, la décision de Donald Trump de laisser le champ libre à la Turquie dans le nord-est de la Syrie, où une offensive contre les Kurdes serait imminente, à en croire les déclarations à Ankara ces dernières heures. Ce que craignent pourtant certaines voix à Washington, comme le sénateur républicain Lindsey Graham. Donald Trump lui rappelait que la Turquie était un partenaire commercial important. Le président américain doit d'ailleurs recevoir son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dans le courant du mois de novembre. Une réconciliation de façade après de nombreuses tensions. Elles avaient valu à la Turquie de nombreuses sanctions américaines dont elle avait beaucoup souffert. Ankara semble d'ailleurs se prémunir d'une éventuelle reprise des sanctions avec cet accord récemment conclu avec la Russie pour ne plus commercer avec le dollar entre eux, mais seulement en roubles russes et en livres turcs. Explication de l'économiste Denise Ounal du Centre d'études prospectives et d'information internationale.
C'est un mouvement de fond en cours depuis que les États-Unis utilisent leur loi intérieure en guise de loi internationale pour sanctionner des pays. Il se trouve que la Russie et la Turquie font objet des sanctions américaines. Parfois, ils peuvent plus utiliser le dollar. Dans le passé, c'est arrivé, la Turquie a dû payer l'Iran en or. Alors, pour échapper à ce genre de choses, la Russie et la Turquie, mais aussi la Chine et la Turquie, ou bien la Chine et la Russie, ils ont décidé de favoriser l'utilisation dans leur commerce réciproque de leur monnaie. On voit bien que vraiment on est dans la tectonique des plaques, hein, des changements d'alliance. En arrière-plan, vous voyez une déconnexion de la Turquie de l'orbite de l'OTAN et un passage vers la sphère de l'Eurasie avec la Russie et la Chine.
Des propos recueillis par Ariane Gaffuri. Voilà, et les sanctions américaines ne sont pas que commerciales, à l'image de ces restrictions de visa annoncées ces dernières heures et qui seront décidées contre des responsables chinois. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a expliqué que cela visait à dénoncer la campagne de répression des Ouïghours, minorité musulmane chinoise. La Chine, avec laquelle les États-Unis ont de surcroît engagé une guerre commerciale, une guerre qui a des conséquences indirectes mais très nocives sur l'économie américaine. Exemple avec les ventes de voitures qui ont nettement diminué ces derniers mois. Une raison invoquée notamment dans les négociations en cours entre les syndicats et la direction de General Motors. Pour la première fois depuis 12 ans, une grève d'ampleur a lieu au sein de la firme. Elle entre dans sa quatrième semaine. Lubna Anaki, vous êtes à Détroit où se trouve le siège de General Motors. Lubna, ce mouvement a de lourdes conséquences. On parle de millions de dollars de pertes.
Oui, et le premier à payer la facture, c'est bien sûr General Motors. L'activité du groupe est à l'arrêt dans les 34 usines américaines. Selon certains experts, General Motors perd 100 millions de dollars par jour depuis le début du mouvement. Au total, 50 000 travailleurs sont en grève depuis le 16 septembre. Ils réclament notamment l'amélioration de leurs conditions salariales. Ici à Détroit, les grévistes disent être déterminés à obtenir gain de cause, même si pour l'instant les négociations sont au point mort. Et même si cela veut dire qu'ils vont continuer à vivre avec 250 dollars par semaine grâce à une caisse mise en place pour la grève. Il compte sur la solidarité des habitants qui organisent des collectes de nourriture et des distributions au piquet de grève. Mais les conséquences de cette grève s'étendent bien au-delà de General Motors. Dans le Michigan, une partie importante de l'économie dépend de l'activité automobile. Certains concessionnaires ont vu leur chiffre d'affaires baisser de moitié ces dernières semaines. Il manque de pièces de rechange. Pareil pour les transporteurs qui travaillaient directement avec General Motors. Un chauffeur de camion m'a dit hier qu'il n'avait pas travaillé depuis 2 semaines. Il est désormais obligé d'assurer des courses pour Uber pour gagner de l'argent en attendant que la grève se termine.
Ah mais Lubna Anaki qui était à Détroit. En Amérique du Sud, l'Équateur secoué par un mouvement parti de la hausse des prix de l'essence et qui plonge dans le chaos avec ces scènes de violence dans la capitale Quito ce mardi où plusieurs manifestants ont forcé l'entrée du Parlement. La police a répliqué au gaz lacrymogène. Le président Lénine Moreno, déjà exilé hors de la capitale avec le gouvernement, a décrété un couvre-feu aux abords des bâtiments officiels. Selon le pouvoir, la situation est créée par l'ancien président équatorien Rafael Correa avec le soutien de Nicolas Maduro. Rafael Correa qui doit d'ailleurs prendre la parole ce mercredi depuis Bruxelles, où il réside. En France, ce mercredi, il y a la conférence du Fonds de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Ça se passe à Lyon. Emmanuel Macron y est attendu. Il s'agira de faire le point sur la lutte contre les 3 maladies à travers le monde, mais aussi de lancer un appel aux dons qui vont pour 70% à destination de l'Afrique. L'Afrique, où nous nous rendons à présent, en Tunisie, le candidat qualifié pour le second tour de la présidentielle, Nabil Karoui, toujours emprisonné, demande un report du scrutin toujours prévu dimanche. Ses avocats ont également déposé un recours devant un tribunal administratif pour faire valoir l'inégalité des chances entre les deux candidats pour la campagne du deuxième tour. Nabil Karoui est opposé au conservateur Kais Saied. Deux candidats qui ont séduit dans les zones rurales en Tunisie. Reportage dans la région de Sidi Bouzid, berceau de la révolution de Jasmin, et où les agriculteurs, très nombreux, sont en demande d'investissement. Un reportage signé Richard Rifono et Bintak Diagne.
Ajlaoui Rabat dirige une entreprise de transformation de feuilles d'olivier. À l'aide de machines, il extrait un produit pour fabriquer des cosmétiques, des marchandises destinées exclusivement à l'exportation, faute de volonté politique, selon lui, de valoriser les produits sur les marchés locaux.
La matière grise existe. Ici, à Sidi Bouzid, les ingénieurs, les docteurs en S, je ne sais pas quoi, plein. Ça court les rues, les cafés sont remplis avec ça. Faut-il trouver une volonté politique pour essayer d'encadrer tout cela et de leur donner le moyen de s'auto-produire. Eux-mêmes, ils sont prêts à faveur des petites et moyennes entreprises.
Résultat, selon cet ingénieur, un vote sanction contre la classe politique traditionnelle.
Les gens ont osé changer leurs représentants. On n'a qu'à voir les élections présidentielles et surtout les jeunes. Pour une fois, ils se sont rendus compte que l'importance de leur voix. Alors, ils ont été virer les anciens et mettre des nouveaux.
Idriss Afouri travaille, lui, dans la transformation de la tomate. Il mise sur l'universitaire Kais Saied qui symbolise à ses yeux le changement.
Je crois que la Tunisie va changer avec M. Kais Saied. Kais Saied, c'est un homme qui n'a pas une relation avec, qu'est-ce que je regarde, avec des pays étrangers qui l'ont influencé sur la politique tunisienne et sur l'économie tunisienne.
De son côté, Nabil Kawi rencontre beaucoup d'échos chez les populations les plus déshéritées de la région. Au premier tour, il s'est classé deuxième avec 17 000 voix dans cette région. Richard Ifono, Bintadiagne, Sidi Bouzid, RFI.
Et ce mercredi, la commission électorale tunisienne doit en principe annoncer des résultats officiels des élections législatives qui se sont déroulées dimanche dernier. Dans l'agenda du jour également, Jean-Claude Juncker attendu au Parlement européen ce mercredi. Il doit y faire un point sur les négociations sur le Brexit. Négociations au point mort aux dernières nouvelles. Le Parlement européen de Strasbourg qui a également mis provisoirement terme aux auditions des futurs commissaires européens ce mardi soir. Après le recalage de deux commissaires envoyés par la Hongrie et la Roumanie, les 24 autres ont ainsi défilé, ont été interrogés entre le 30 septembre et hier soir. Prochaine étape, le 23 octobre, avec un vote pour ou contre ce collège, censé entrer en fonction le 1er novembre. Mais rien ne semble assuré. À Bruxelles, Pierre Benazet.
Si nous réussissons notre transition climatique, nous dessinerons pour l'Europe un avenir dont nos enfants pourront être fiers. Avec cette dernière phrase, ce mardi soir, le néerlandais Frans Timmermans clôt ses 6 journées d'audition. Il fait d'ailleurs partie de ceux qui ont été les plus convaincants avec la Bulda, à qui les parlementaires ont finalement laissé le bénéfice du doute, comme la portugaise ou la maltaise. Mais il faut bien reconnaître qu'éloges et critiques allaient généralement de pair avec l'appartenance politique. Le candidat grec s'est habilement tiré de l'embuscade que promettait d'être son audition, du fait de l'intitulé de son portefeuille, la fameuse protection du mode de vie européen. D'autres, en revanche, ont eu de vrais problèmes. Le Polonais a carrément dû repasser une audition de rattrapage, alors que de nouvelles questions écrites ont été posées à la Suédoise et à la Française Sylvie Goulard. Pour elle, l'évaluation a été repoussée à ce mercredi. Elle est encore susceptible de devoir repasser une audition de rattrapage. Ceci pourrait retarder tout le processus, tout comme les remplaçants pour la Roumanie et la Hongrie, qui ne sont toujours pas officiellement désignés. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
L'actualité en Europe, ce sont aussi les députés italiens qui ont approuvé la réduction du nombre des parlementaires, réforme chère à Luigi Di Maio, chef de file du mouvement 5 étoiles. Le texte voté ce mardi réduit d'un tiers le nombre total des parlementaires. On passerait alors à 400 députés au lieu de 630 et 200 sénateurs contre 315 actuellement. La réforme devrait entrer en vigueur d'ici 2023, la date prévue pour les futures élections. Nous terminons ce journal en Russie avec cette initiative inédite. Près de 200 prêtres orthodoxes ont pris position dans le débat politique en soutenant les manifestants pro-démocratie arrêtés cet été à Moscou et condamnés pour certains. Les prêtres demandent dans une lettre ouverte à la justice de revenir sur ces condamnations. Notre correspondant en Russie, Daniel Valo, en a rencontré quelques-uns.
Nous sommes dans une petite église du centre de Moscou, à quelques encablures du Kremlin. La prière se déroule au sous-sol, dans la crypte, où quelques dizaines de fidèles sont agenouillés. À la fin de la liturgie, nous rencontrons le père Oleg, l'un des premiers à avoir signé la lettre de soutien aux manifestants.
Je l'ai fait par compassion pour ces innocents qui se retrouvent en prison. Lorsque des policiers sont condamnés, la peine est symbolique. Et là, pour de simples manifestants ou pour un gobelet en plastique jeté vers les forces de l'ordre, les peines de prison sont très sévères.
Il est très rare en Russie que des religieux interviennent de façon aussi directe dans le débat public. Et l'initiative est d'autant plus courageuse que l'Église orthodoxe est perçue depuis plusieurs années comme un allié du Kremlin et de Vladimir Poutine.
Comme vous le voyez, je n'ai pas peur. Et ces derniers jours, j'ai reçu énormément de messages de soutien. Ce qui m'a le plus étonné, c'est le nombre de signataires. On est passé d'une quarantaine au début à plus de 180.
Sans surprise, la lettre a suscité un débat houleux au sein du clergé orthodoxe. Mais après avoir condamné l'initiative des prêtres signataires, le patriarcat a finalement adopté une position plus nuancée et a même pointé du doigt les défauts de la justice russe. Daniel Valo, Moscou, RFI.
Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez bien.